Paris, rappelle-toi de Troie, la grande, qui fut détruite. Extrait du poème de Robert Blondel au moment où les Bourguignons et les Anglais occupaient Paris en 1418.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
Au cours des époques médiévales et modernes, les grandes familles princières, et en particulier la monarchie française, a cherché à retrouver dans un passé très lointain des ancêtres prestigieux qui leur donnaient une légitimité historique absolument extraordinaire. Et cela existe dans le royaume des Francs très tôt, puisque nous avons une chronique, Historia Francorum, par Frégédère, rédigé aux alentours de 660, et qui va chercher des origines troyennes à la monarchie des Francs. En particulier en mettant en scène un certain Francion, qui serait cousin d'Aîné, et qui aurait pu fuir Troie en flammes. Or, cette tradition de Francion a traversé finalement les siècles, parce qu'au cours du Moyen-Âge, on retrouve dans toute une série de documents ce personnage censé être à l'origine de la France et de la monarchie française, comme d'ailleurs son nom l'indique. Il y a par exemple, chez Guillaume le Breton, historiographe de Philippe Auguste, dans son texte La Philippide, écrite à la gloire du roi Philippe et de la dynastie capétienne, eh bien, qui fait de Francion le fils d'Hector et le petit-fils de Priam. D'autre part, et toujours à l'époque mérovingienne, dans le Liber Historiae Francorum de 727, on met en place un certain Pharamond, descendant justement de Francion, et qui serait le roi des Francs vers 420. Ce Pharamond est à nouveau mis au goût du jour, au XIIIe siècle, dans les grandes chroniques rédigées par Vincent de Beauvais. Cet aspect a véritablement donné une légitimité historique au travers des siècles entre Troie, Rome et la monarchie française. Ce fut même utilisé pour donner une espèce de sentiment national au moment où il y avait difficulté pour la monarchie française au cours de la guerre de Cent Ans. En effet, c'est dans le contexte de la guerre de Cent Ans que Robert Blondel a rédigé un traité où il essaye de redonner vigueur à la France et au royaume capétien au moment où la capitale, Paris, est occupée par les Anglais et les Bourguignons. Et d'ailleurs, j'en ai cité deux vers en introduction de cette chronique. De même, nous retrouvons dans les années 1430, dans un poème de Jacques Millet, une harangue de Priam. Écoutons-la. « Défendez votre terre que vos ennemis anciens veulent conquérir. J'ai volonté de mort souffrir en défendant ma liberté, que je meure avant que je visse exterminer mon pays. » Il est assez aisé de voir que derrière ce discours de Priam, le roi de Troie, qui est en train d'haranguer les Troyens pour qu'ils se défendent contre les Grecs, on peut donner un aspect très contemporain à ce texte, puisque dans les années 1430, il fallait voir dans les anciens ennemis, les Anglais, très présents encore sur la terre française, qu'ils voulaient conquérir. Et comme le dit Priam, « que je meure avant que je visse exterminer mon pays », c'est-à-dire il faut éviter de voir la fin de la France, et il y a donc bien une espèce de sentiment national qui est en train progressivement de monter et que l'on va utiliser au travers de personnages antiques. D'ailleurs, il est à remarquer que quand Charles VIII vient à Reims en 1484, on a installé à l'entrée de la ville deux statues, celle du roi Pharamond descendant donc de Francion, et une statue de Saint Rémy, un des patrons du royaume. Le personnage de Francion se retrouve d'ailleurs également dans des œuvres du XVIe siècle à la gloire de la monarchie française. C'est en particulier le cas dans l'œuvre de Ronsard, La Franciade, qui est un poème épique à la gloire du royaume des Valois, qui avait été commandé par Henri II, mais qui ne fut terminé que sous le règne de Charles IX et qui est d'ailleurs dédié à ce roi. Il y a d'ailleurs chez Ronsard des influences tirées à la fois de l'Odyssée d'Homère et de l'Énéide de Virgile. Certes, ses ancêtres antiques étaient de plus en plus remis en cause par les érudits. Et des humanistes italiens comme Flavio Biondo, par exemple, ou Lorenzo Valla, avaient montré qu'il était fort improbable que la monarchie française, pour prestigieuse qu'elle fût, remonte jusqu'à Troyes. Au demeurant, c'est le même Lorenzo Valla qui avait également montré que la donation de Constantin qui créait les états pontificaux était en fait un faux, remontant sans doute à l'époque carolingienne. La volonté de la monarchie française de se donner des ancêtres et un héritage antique se retrouve dans bien des domaines. Parce que, effectivement, quand on regarde l'iconographie des souverains, eh bien, on les voit sous les habits d'empereurs romains, représentant François Ier, Henri II, Henri IV, Louis XIII, Louis XIV, qui sont représentés d'ailleurs de manière très paradoxale avec à la fois la perruque qui caractérise le XVIIe siècle et un uniforme d'impérator romain. Autre élément qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on a recherché dans la culture antique des enseignements qui pourraient servir pour former les princes de la maison de France. En cela, Louis XIV a demandé qu'il y ait la constitution, la publication, à partir des années 1670, de volumes, au total 64, intitulé Ad Usum Delphini. Ces volumes serviraient à l'éducation du grand dauphin qui avait été confié au duc de Montlosier. Ces volumes incluent des textes d'Hérodote, de Thucydide, de Polybe, de Plutarque, de César, Salluste, Tite Live, Horace, Virgile, Tacite, Suétone, qui donnent des exemples à suivre pour être un bon souverain. Inversement, il peut y avoir des textes qui servent finalement de contre-exemples, c'est-à-dire des exemples à ne pas suivre. Et l'on va chercher, chez Tacite ou chez Suétone, des cas d'empereurs valeureux ou de décisions qui font un bon souverain, ou au contraire, des exemples à ne pas suivre. D'autre part, au travers de Cicéron, par exemple, ou de Démosthène, eh bien, on cherche à montrer ce qu'est le bel art rhétorique que doit avoir un souverain digne de porter la couronne de France. Seulement, il faut se poser aussi une question que le XVIIIe siècle s'est posée. Est-ce qu'il faut aller chercher continuellement dans l'Antiquité, des exemples pour former les princes de la maison de France. Or, la question s'est posée effectivement parce que, à partir du début du règne de Louis XV, eh bien, on a commencé à envisager qu'on pourrait trouver dans l'histoire nationale des exemples qui pourraient servir à l'éducation sans avoir besoin de remonter jusqu'à l'Antiquité pour finalement enseigner l'art de gouverner. Une dernière remarque à propos de cet héritage antique de la monarchie française, c'est lorsque l'on visite Versailles. Les jardins sont emplis de références à l'Antiquité. Il y a le bassin de Latone, le bassin de Neptune, il y a également des représentations au sein même du palais. En effet, les grands appartements royaux sont composés de 7 pièces, en lien avec des planètes et des dieux, les salons d'Hercule, de l'abondance, les salons de Vénus, de Diane, de Mars, de Mercure, d'Apollon. Mais des personnages historiques sont également représentés. Dans Versailles, il y a 5 représentations d'Alexandre le Grand, 4 représentations d'Auguste, 3 de Cyrus, 2 de Jules César. Mais interrogeons-nous sur le personnage de Cyrus. Cyrus, dans la tradition judéo-chrétienne, est bien vu parce qu'il a permis aux Juifs exilés à Babylone de rentrer et de reconstruire le temple. Alors, finissons notre chronique en citant André Félibien qui faisait en 1674 une description sommaire du château de Versailles. Comme le soleil et la devise du roi, l'on prit les 7 planètes pour servir de sujet au tableau des 7 pièces de cet appartement, de sorte que dans chacune on y voit représentées les actions des héros de l'Antiquité qui auront rapport à chacune des planètes aux actions de Sa Majesté.